Je pense que ce qui peut rendre les choses difficiles pour nous, les femmes qui voyageons seules, c'est le regard que portent sur nous les hommes, en fait, tout simplement. Je pense que nous, si on, je sais pas, une femme qui prend son sac à dos, qui part, bah voilà, tant qu'elle en a envie, qu'elle en a besoin et qu'elle a cette volonté-là, bah y a rien qui va l'arrêter. Par contre, je pense que le regard que portent les hommes sur elle, qui la voient comme une petite chose fragile ou alors comme une nana qui porte des shorts un peu trop courts ou je sais pas, qui, tu vois, et bah c'est ça qui va rendre le fait de voyager seule dangereux.
J'ai connu Margot durant mon enfance. Nos parents respectifs sont des amis de longue date. Le temps du collège venu, chacune a fait sa vie et nous nous sommes perdus de vue. Au printemps 2018, je la retrouve chez Virginie, notre prof de couture. Margot confectionne un kimono et moi une robe. Et chacune à nos travaux, nous nous redécouvrons devenus de jeunes adultes. Je suis heureuse de constater qu'elle n'a pas vraiment changé. Sa joie de vivre, son franc-parler sont toujours là, intacts, depuis l'enfance. Margot a le voyage dans le sang. Un bel héritage transmis par ses parents, avec lesquels elle partait sur de longues périodes, en van aménagé, quand elle était enfant. Ce n'était donc pas étonnant d'apprendre lors de nos retrouvailles qu'elle projetait de partir à l'automne en Nouvelle-Zélande. Au retour de son périple, nous nous sommes retrouvés autour d'un café et d'un micro pour qu'elle me parle de ses expériences de voyage en solitaire.
Je suis ardéchoise. Ça, c'est mine de rien, c'est une information importante pour moi parce que je suis encore plus fière d'être ardéchoise depuis que j'ai quitté un peu l'Ardèche. Je viens de finir mes études tout récemment. Bien que j'ai 26 ans, j'ai été un peu longue à trouver ce que je voulais faire et à aller au bout de mes projets. Donc, je suis prof de FLE, français langue étrangère. Donc, j'enseigne le français à des personnes qui ne sont pas francophones. J'ai fait pas mal de choses différentes. J'ai fait aussi pas mal de boulots différents et j'ai eu pas mal d'expériences à l'étranger, en fait, que ce soit pour des voyages ou des stages. Et en fait, tout ce petit mélange-là, ça fait la personne que je suis aujourd'hui, donc un peu éparpillée, mais en même temps, mes expériences se complètent et font un truc finalement assez cohérent, même si ça a l'air d'être un petit peu le bazar. Voilà. Ce qui est marrant, c'est que j'ai beaucoup critiqué l'Ardèche, surtout durant mon adolescence, et notamment Annonay. En fait, j'ai eu une période où j'en voulais beaucoup à mes parents d'habiter à Annonay, alors qu'une fois que j'ai quitté cet endroit et que je suis revenue, je me suis rendu compte à quel point j'aimais être ici, à quel point j'aimais habiter dans un milieu rural, en fait, parce que j'habite dans un petit village à une dizaine de kilomètres d'Annonay. Enfin, mes parents ont une maison là-bas. J'étais tout le temps dehors. Enfin, j'ai eu beaucoup de jeux en extérieur. Mes parents me laissaient faire un petit peu ce que je voulais. J'étais un petit peu casse-cou. Et c'était vraiment, je pense, un cadre de vie très privilégié, en fait. Je pouvais faire ma vie avec mes frères et sœurs dehors. Et donc, voilà, je suis hyper reconnaissante d'avoir eu cette enfance-là. Mes parents sont profs et du coup, les vacances scolaires étaient faites pour voyager. Et alors, ils ont toujours apprécié avoir soit des camions aménagés, soit plus récemment des camping-cars. Et du coup, on est très souvent partis en vacances, même systématiquement, en fait, dès qu'on avait un moment de libre, on partait en vacances. Et alors, on est resté en Europe. Mes parents, je crois, n'ont jamais pris l'avion pour quitter l'Europe. Donc, c'était des voyages vraiment soit en France, soit dans des pays voisins. Mais voilà, je suis habituée, c'est vrai, depuis toute petite, à prendre le camion pour partir. Et voilà, bon, il y a eu une période où ça m'a un peu gonflée à l'adolescence, toujours, où j'en avais un peu marre de partir avec mes parents et tout ça. Puis bon, il y avait des moments aussi où j'avais très envie de rentrer à la maison parce qu'on partait, notamment l'été, on partait sur des périodes d'un mois, un mois et demi. Et ça me paraissait parfois très long. Mais je trouve quand même que c'est une grande chance que j'ai pu avoir. Et ça m'a donné à penser que faire des voyages, c'était pas du tout compliqué ni impossible, en fait. Donc voilà, ça faisait partie de la normalité pour mes frères et sœurs et mes parents et moi. Je suis allée m'installer 2 ans à Roubaix pour faire un master de relations interculturelles. Le but de ce master, c'était de pouvoir monter des projets culturels à l'étranger. Et donc, on était poussé, c'était obligatoire même, de faire au moins un stage à l'étranger. Et donc, j'ai fait un premier stage en Espagne et un deuxième stage en Argentine. Et en fait, moi, j'avais pris une option FLE, donc français langue étrangère. Et c'est vers ça que je me suis dirigée très vite, parce que je me suis rendu compte que le montage de projets culturels, c'était pas trop pour moi, en fait. J'étais pas très forte pour ça. Et j'ai beaucoup aimé mon expérience d'enseignement du FLE. Et du coup, j'ai fait mes 2 stages dans des structures qui s'appellent des alliances françaises et qui dispensent des cours de français, du coup, à des personnes locales, quoi. Voilà, donc mes 2 premières expériences toute seule à l'étranger, c'était dans des cadres quand même bien précis, des cadres de stage, quoi. Donc j'étais pas non plus seule au monde, c'était encadré, j'avais une convention, je m'étais débrouillée pour trouver des colocs. Mais en fait, surtout ce qui se passait, c'est que tous mes amis de ma promo étaient dans la même situation que moi. Et du coup, pareil, ça me paraissait très normal, en fait, d'avoir à faire ça, d'avoir à se débrouiller un petit peu tout seul pour se loger, s'adapter à la vie locale. On était tous pareils, en fait. Donc j'avais pas du tout l'impression de faire un truc exceptionnel. J'ai des amis qui sont allés beaucoup plus loin que moi, géographiquement je veux dire, beaucoup plus, qui sont restés plus longtemps et tout ça.
Donc ces stages, tu les as fait dans quel pays ?
Alors du coup le premier en Espagne et le deuxième en Argentine.
Ah donc c'est plus loin.
Je suis restée 6 mois. Ouais, ouais, ouais. J'étais dans le nord de l'Espagne, dans une ville qui s'appelle Santander. Donc c'est pas l'Espagne à laquelle on pense. Je pense quand on pense à l'Espagne, on pense à Barcelone, aux plages, à l'Andalousie et tout ça. Moi j'étais en Cantabrie, donc une région assez montagneuse et tout ça, où il y avait vraiment une identité vraiment à part entière, j'avais l'impression. Et je me suis vraiment attachée à des détails pratiques, quoi. Comment t'installer, comment trouver un endroit sympa où vivre, comment t'adapter à un nouveau boulot, comment te faire des amis. Mais je suis restée que 3 mois, donc c'était une expérience finalement assez courte. Mais voilà, ça a posé les bases de comment faire, en fait. Quelles sont les formalités, les étapes à prendre dans l'ordre pour s'installer à l'étranger. Ça m'a appris ça, en fait. L'Argentine, ça a été très différent. Parce que j'étais plus loin, en fait. L'Espagne, j'y suis allée en voiture, tu vois. Donc finalement, j'étais pas très loin de chez moi. L'Argentine, voilà, je prenais l'avion et tout ça. Et là, je me suis sentie vraiment, mais tellement libre, en fait. Là, il n'y avait plus personne pour me regarder, quoi. Enfin, j'avais l'impression que je pouvais recommencer ma vie à zéro, même si j'en avais pas envie, quoi. Mais j'avais l'impression que, voilà, il y avait une nouvelle vie qui s'offrait à moi. Là, j'ai découvert une culture aussi totalement différente. Et là, pour le coup, je pense que je me suis plus intéressée, comme je maîtrisais déjà... les démarches d'une installation à l'étranger, là j'ai plutôt pu me concentrer sur les gens, quoi. Rencontrer les gens, me faire des amis, m'entourer, voir comment les gens vivent. Et c'est plutôt ce que j'ai retenu de cette expérience-là. Donc ça a été assez différent. L'Espagne, je me considère un peu comme un bébé, en fait, qui voit comment ça se passe. Et l'Argentine, c'était plutôt mon adolescence, parce que j'exultais et je touchais à tout et j'encontrais plein de gens. Et ouais, ça a été un petit peu, je dirais l'adolescence, si on fait une chronologie comme ça de mes voyages, quoi.
T'es resté 6 mois en Argentine.
Oui, tout à fait.
Et quand t'es revenu, qu'est-ce que tu as fait quand t'es revenu en France ?
Alors, quand je suis revenue en France, je suis revenue à Annonay. Et alors là, j'ai eu une période de passage à vide, en fait, vraiment assez dure, en fait. Parce que voilà, mon expérience en Argentine était terminée, et il fallait que j'accepte, mais il fallait que je rebondisse, quoi. Et ça a été, j'ai eu quelques semaines où, à me dire, mais comment je vais me remettre de cette expérience-là, qui avait été très intense. J'avais l'impression de devoir repartir à zéro, en fait. Et là, j'ai été sauvée par une association annonéenne qui s'appelle La Source et dans laquelle j'ai pu faire un service civique, en fait, qui a duré 6 mois. Et ça, je crois vraiment que c'est ce qui m'a sorti la tête de l'eau, en fait, parce que j'avais besoin d'une opportunité qui soit riche, qui soit aussi riche en rencontres, en projets. J'avais besoin de quelque chose qui me mette en contact avec des gens, qui me fasse oublier en fait un petit peu la vie que j'avais perdue en revenant d'Argentine. Et cette expérience à La Source a vraiment été, je pense, qui m'a donné la force de passer à autre chose, en fait.
Et suite à ça, donc, qu'est-ce que tu as fait ?
Alors, en même temps que j'ai bossé à La Source, je faisais donc un autre master à distance. J'avais vraiment décidé de me spécialiser dans le FLE. Donc, j'étais en train d'étudier à distance pour être vraiment diplômée professeur de français langue étrangère. Donc, je menais les deux de front. C'était pas toujours facile, mais j'aimais tellement ce que je faisais, que ce soit à La Source ou dans mes études, que c'était pas un problème. Je l'ai obtenu quand ? En juin. En juin de cette année, je l'ai fait en 3 ans. Parce qu'entre-temps, après mon stage à La Source, je suis repartie en Argentine une deuxième fois, cette fois-ci à Buenos Aires, pour enseigner, quoi, le français. Et je suis revenue après, donc voilà.
Et tu es restée combien de temps, alors,
là, je suis restée 10 mois, mon deuxième séjour.
Ah, oui.
J'avais une bourse du ministère des Affaires étrangères qui me permettait, en fait, d'être payée par le ministère pour une mission d'enseignement du FLE à des militaires argentins. Donc c'était un contexte encore différent et vraiment très, très spécial. C'était un petit peu bizarre comme expérience. Mais ça m'a permis de rester 10 mois, d'avoir un salaire, en fait, plus décent que ce que j'avais pu avoir en étant stagiaire. Donc c'était quand même plus agréable. C'était des conditions de vie plus confortables, quoi. Bien que je travaille dans une caserne militaire, ce qui était quand même un truc un peu spé. Déjà, c'est un milieu 90% masculin. Une manière de penser particulière, qui est la manière de penser des personnes qui ont suivi des formations militaires. Ce que je critique pas, je constate juste qu'on est vraiment, on pense pas de la même manière, en fait. J'étais une des seules civiles, en fait. C'était ça aussi qui faisait que c'était un petit peu spécial. J'avais pas du tout, j'avais aucun grade, quoi. Donc j'étais vraiment tout en bas de l'échelon, quoi. Et puis j'ai dû m'adapter à un monde vraiment spécial, vraiment à part, quoi, qui m'intéressait pas, en fait. A priori, moi, le monde militaire, c'est pas du tout mon délire. Au début, j'étais très réfractaire. Je voulais pas du tout me faire amie avec des militaires. Puis finalement, si, je me suis fait des très bons amis parmi ces personnes. J'allais au sport avec eux à la fin de mon séjour. Voilà. Et puis, j'ai vu des manières de voir le monde vraiment différentes de la mienne. Donc, c'est ça que j'apprécie aussi, quoi.
Et le fait d'être une femme parmi 90% d'hommes, ouais. Comment tu l'as vécu ?
Je pense que les femmes sont pas valorisées comme elles devraient l'être dans un monde militaire. C'est pour ça que je tenais à aller au sport avec eux, en fait, pour leur montrer que même si j'étais une civile et une femme, bah, je pouvais courir, même si j'étais loin derrière, et bah, j'y allais quand même, quoi. Et puis, j'aime pas du tout généraliser à l'échelle d'une population, mais les Argentins, c'est quand même des gros dragueurs, quoi. Ils ont vraiment la drague dans le sang. Mmh. Mais pour le coup, dans ce contexte-là, militaire, je l'ai pas ressenti. Donc, heureusement pour moi. Sinon, je pense que ça aurait été vraiment très long. C'est marrant parce que je m'attendais pas à ça, en fait. Je m'attendais pas à être contente d'aller dans une caserne. Et le fait est que si, par les gens qu'on rencontre, on peut être content d'aller dans un endroit qui est un petit peu... qui peut être bizarre, quoi.
Ouais.
Alors, je suis revenue d'Argentine l'année dernière, il y a pile un an. Alors, j'ai travaillé dans une association lyonnaise qui propose des programmes de formation sur mesure de français, du coup, langue étrangère, à des publics de travailleurs qui travaillent pour des entreprises, mais un public d'immigrés, quoi, de Turquie, du Portugal. Et ensuite, j'ai passé tout l'été dans un camping à Ruons où j'étais chargée de préparer les glaces et de servir les desserts, et j'étais aussi au bar. Donc, en fait, ça, c'était un boulot purement alimentaire, mais j'ai adoré travailler là-bas. Ça a été un boulot vraiment génial. Et en fait, j'ai fait ça pour économiser de l'argent en vue de mon voyage en Nouvelle-Zélande. Je voulais pas trop préparer ce voyage parce que je voulais me laisser une marge de surprise, en fait. Bien sûr, j'avais lu quelques bouquins vite fait pour voir un petit peu, parce que je voulais pas non plus passer à côté de choses exceptionnelles. Donc voilà, je m'étais un peu renseignée. Mais au-delà de ça, j'avais pas du tout de calendrier, j'avais pas du tout planifié, j'avais rien réservé, mais vraiment absolument rien réservé, sauf une auberge de jeunesse à mon arrivée. Mais sinon, je partais vraiment sans trop savoir où j'allais aller, en fait. J'avais imprimé des cartes de la Nouvelle-Zélande, mmh. Et j'avais grossièrement tracé une espèce de cercle qui faisait le tour en me disant, bah voilà, il faudra que j'essaye de faire ça. Pourquoi est-ce que j'ai eu envie d'aller là-bas ? Parce que je crois que c'était un petit peu un rêve de gamine, en fait, de partir avec mon sac à dos et de faire du stop et de camper. C'était un rêve que, ouais, je sais pas, j'y pensais depuis des années. Je voulais le faire en Argentine et bon, c'est pas très... étant seule et étant fille, c'est un peu... pas très sécuritaire, quoi. Donc j'avais renoncé et je m'étais dit, bah, un pays comme la Nouvelle-Zélande, je pense que je pourrais me sentir en sécurité parce que le taux de délinquance est relativement faible. et puis le stop se fait beaucoup et puis le camping aussi se fait beaucoup. Donc je me suis dit que c'était un bon terrain de jeu, en fait, la Nouvelle-Zélande. Je pense que j'ai vraiment beaucoup de chance, c'est d'être soutenue par ma famille, en fait. Vraiment, j'ai un soutien indéfectible. Bon, ouais, c'est relatif, mais en tout cas, mes parents et mes frères et sœurs, même si parfois ils le regrettent, enfin regrettent que je parte, bah, de toute façon, ils n'ont pas le choix, quoi. Ils ne m'ont pas faite pour que je reste avec eux toute la vie. Et je pense qu'ils ont accepté que c'était quelque chose dont j'avais besoin. Et en tout cas, ouais, ils me soutiennent beaucoup. Je pense qu'ils ont peut-être été inquiets pour l'Argentine, parce que voilà, c'est un pays où il y a quand même pas mal de délinquance, pas mal d'homicides et tout ça. Autant pour la Nouvelle-Zélande, je pense qu'ils étaient plus sereins. Je trouve que ça donne beaucoup de force, en fait, quand on est soutenu par les gens qui nous aiment et qu'on est encouragé par eux, bah, ça conforte dans l'idée qu'on fait la bonne chose, quoi. J'avais beaucoup de peur, en fait, mais des peurs un peu à la fois matérielles et un peu de l'ordre plus psychologique, en fait. J'avais peur de manquer d'argent, j'avais peur d'avoir froid, j'avais peur de pas avoir le matériel adapté, j'avais peur de me perdre, j'avais peur de me sentir seule aussi, parce que je suis partie seule, donc c'était une crainte que j'avais, de me sentir seule, en fait, de souffrir de la solitude. Je sais pas, j'avais peur de pas y arriver, en fait, de craquer, de vouloir rentrer plus tôt. Je pense que je m'étais mis un petit peu un challenge toute seule, en fait, en mode, il faut que tu fasses 3 mois, enfin, tu tiens 3 mois à l'étranger, dans des conditions pas hyper confortables, mais... j'avais peur de rentrer un peu la queue entre les jambes, tu vois, si jamais ça se passait mal, quoi. L'auberge de jeunesse, c'est la vie en collectivité, de toute façon. Moi, en plus, j'étais tout le temps dans des dortoirs. C'était très rare, que ça m'est jamais arrivé de prendre des chambres seules. Donc, c'est sûr qu'il faut développer des techniques pour se sentir chez soi tout en étant avec tout le monde. Mmh. Et alors, pour ça, il y a des trucs très simples, hein, notamment, tu vois, tu accroches ta serviette de bain. Tu vois, tu fais une espèce de rideau autour de ton lit. Tu as déjà un semblant d'intimité. J'essaye de prendre mes douches, enfin voilà, d'utiliser la salle de bain quand il y a des horaires où il n'y a pas grand monde, tu vois, pour, voilà, j'ai le temps de prendre la salle de bain. je prends mon temps et tout ça. Mais c'est sûr que c'est, il faut jouer le jeu du collectif, tu vois. Le confort de l'auberge jeunesse me faisait aussi oublier un petit peu le fait que, bon, voilà, j'étais pas toute seule. J'étais contente d'avoir ce confort-là, donc j'étais prête à m'accommoder d'être avec d'autres, quoi.
Plus donc d'un aspect pratique, au niveau de gérer sa contraception à l'étranger, etc. Comment tu l'as géré, ça?
Bah, moi, je prenais la pilule. Donc, ouais. C'était, voilà, il faut juste... c'est vrai que c'était peut-être plus difficile d'y penser que dans mon quotidien normal, parce que, voilà, j'avais un emploi du temps pas du tout linéaire, j'avais pas du tout de routine, en fait. Et la pilule, c'est quand même une routine, donc il fallait pas que je l'oublie. Mais ouais, j'avais la pilule, et puis bon, évidemment, préservatif à n'importe quel rapport, parce que on sait pas où on traînait les backpackers qu'on rencontre, donc ouais. Voilà. Je suis pas très forte en anglais, j'avais des bases très basiques, en fait, et j'espérais, en fait, profiter de ce voyage pour m'améliorer. En fait, je trouve que pour l'anglais, ça dépend vraiment de qui est mon interlocuteur. Si je sens que la personne en face de moi, elle est très réceptive, qu'elle m'écoute, qu'elle rigole un peu à mes blagues, même si elles sont pas très drôles, qu'elle, voilà, qu'elle prend le temps vraiment de passer outre mes lacunes, en fait, qu'elle essaie de me comprendre même si je me trompe, je vais me sentir à l'aise, et là, je vais être à l'aise, en fait, tout simplement. À l'inverse, il m'est arrivé d'avoir des interlocuteurs pas hyper attentifs, qui faisaient des fois des mines, tu vois, comme ça, comme quand tu montres que t'as pas compris, en fait. En fait, ça me coupe vraiment les pattes, quoi. Je me dis, oulala, le gars, il a rien compris. Enfin, la personne a rien compris. Je perds toute confiance en moi. Donc, en fait, ça dépend vraiment de la personne en face. Et du coup, c'est vrai que j'apprécie beaucoup les backpackers qui sont pas de pays anglophones, tu vois. Notamment, j'ai rencontré beaucoup de personnes venant de Taïwan qui ont un anglais comme le mien, quoi, très médiocre. Et du coup, avec ces personnes-là, je me sentais complètement décomplexée parce que je me disais, de toute façon, ils sont comme moi, ils galèrent. Donc, ouais, ça met en confiance. En fait, c'est tout simple, t'as besoin d'être en confiance. Il me semble, moi, j'ai besoin d'être en confiance pour pouvoir... me sentir à l'aise et puis ne pas avoir peur. Enfin, même si je me trompe, c'est pas grave, j'y vais quand même et puis c'est rigolo, quoi. En fait, je me suis rendu compte d'un truc, je crois que c'est vraiment ce que je retire de ce voyage, c'est que jusqu'à présent, je me considérais comme une personne un peu timide et j'avais besoin qu'on vienne vers moi. J'avais besoin que quelqu'un me fasse un sourire, que quelqu'un vienne me dire viens avec nous, on boit un coup. J'avais besoin qu'on m'invite, en fait. Ce voyage, il a complètement renversé la donne parce que maintenant, je me dis, les gens, ils sont comme toi. Hein. Ils ont aussi peur que toi d'être seul. Ils ont aussi peur que toi de pas arriver à entrer en contact. Eux aussi, ils sont en galère, en fait. Donc, c'est à toi aussi de faire en sorte que les choses se passent bien, qu'il y ait une bonne ambiance. Chacun contribue à ce qu'il y ait une bonne ambiance dans un endroit, en fait. Donc, toi aussi, tu contribues à ça. Toi aussi, tu peux être souriante et être avenante et mettre les gens à l'aise. Et en fait, c'est quand j'ai pris conscience de ça, quand j'ai pris conscience que moi aussi, je pouvais mettre les gens à l'aise, en fait, et ça a complètement changé ma manière d'être. Et je me suis dit, voilà, vas-y, maintenant tu souris. Dès que je rencontrais quelqu'un, je souriais, en fait. C'était, même si la personne n'avait pas l'air hyper emballée, enfin, n'avait pas l'air hyper avenante plutôt, je souriais. Puis je voyais ce qui se passait. Et très souvent, ça débloque des milliards de trucs, en fait. Le premier sourire, peut-être que la personne va venir me parler, peut-être que moi, je vais avoir envie de lui parler. Enfin, voilà, ça va débloquer des choses. Je pense que ça contribue à ce que cette personne ait envie d'aller plus loin, de rentrer dans la pièce complètement, de venir nous parler et tout. En auberge, moi, je développais un truc avec la nourriture, c'est-à-dire que j'avais toujours un truc à partager, quoi. Du chocolat, ou alors je faisais des crêpes, ou alors j'avais, je sais pas quoi, des gâteaux, une bière... Et ça brise la glace aussi, tu vois, voilà, d'avoir un truc à partager. Beaucoup la musique aussi, j'avais toujours une petite enceinte où je mettais une petite musique. Puis voilà, les gens venaient, t'écoutes quoi? Moi, j'écoute ça. En fait, je pense qu'il faut se débrouiller pour avoir des trucs à échanger, quoi. Et après, ça vient tout seul. Et puis après, tu vois si tu t'entends bien ou pas, si... Voilà, c'était ça mes techniques. J'étais dans une auberge, dans une ville qui s'appelle Picton. Et en fait, je faisais un LPX dans cette auberge. C'est-à-dire que j'y suis restée 10 jours. Le matin, je faisais le ménage pendant 2 heures. Et après, j'étais libre toute la journée. Et en échange, j'avais un lit gratuit dans l'auberge. Et du coup, je commençais à connaître un petit peu tout le monde dans cette auberge-là. Et il se trouve qu'il y avait des gens qui habitaient, en fait, dans l'auberge toute l'année. Notamment un vieux papy, dont je sais même pas comment il s'appelle, en fait, qui me racontait souvent sa vie, qui me disait qu'avant il était marin, qu'il avait fait le tour du monde, qu'il avait habité à Singapour, enfin voilà, toute sa vie. Mais le gars, voilà, tous les matins, je le voyais arriver des courses, il mettait 2 bouteilles de vin au frigo. Et le lendemain, moi, comme je faisais le ménage, je retrouvais ces bouteilles dans la poubelle que je devais vider, quoi. Donc ouais, il avait une consommation d'alcool assez importante, quoi. Et en fait, je le voyais jamais manger, ce papy, jamais il mangeait. Jamais, dans le frigo, il me semblait pas qu'il y avait des trucs avec son nom. Je le voyais jamais à table. Il me disait tout le temps qu'il se faisait livrer, qu'il mangeait, je sais pas, des noodles ou des trucs comme ça. Parce que tous les jours, je lui demandais ce qu'il mangeait. Il me disait, ah, mais t'inquiète pas. Mais moi, je le voyais pas manger, en fait. Et en fait, un jour, il y a un Taïwanais qui a fait la cuisine pour tout le monde. Ce qui était aussi un truc super sympa, quoi. Et du coup, j'ai gardé de la nourriture pour le papy. Et je lui ai dit, mais viens manger avec nous et tout ça. Et il voulait pas. Il a refusé. Il m'a dit qu'il avait déjà mangé et tout ça. je vais quand même garder une assiette que j'ai mis au frigo. Et ensuite, le soir, quand tout le monde avait quitté la pièce, je lui ai mis son assiette sur la table. Et là, il est venu et il a mangé, en fait, tout seul, quoi. Je pense qu'il était mal à l'aise à l'idée d'être avec nous tous. Mais n'empêche que, voilà, il a fini par manger son assiette. Et ouais, ça m'a fait super plaisir. Et je m'étais dit que parfois, il faut forcer un petit peu. Enfin, voilà, sous des carapaces, il y a souvent des... Sous des grands airs, en fait, il y a souvent des choses, quoi. Donc, ouais. Du coup, ce que j'ai aimé, je pense, c'est de voir que toutes ces difficultés, j'ai pu les surmonter au quotidien, en fait. Par les gens que j'ai rencontrés, par les paysages que j'ai vus, par ce qui m'est arrivé. J'ai eu encore une fois beaucoup de chance parce qu'il m'est pas arrivé de mauvaises choses, en fait. Vraiment, sauf le dernier jour, on m'a piqué des vêtements dans une auberge de jeunesse. J'avais lavé mes vêtements et que j'avais étendu dans le jardin de l'auberge. Il faut savoir que je suis partie vraiment avec très peu de vêtements. J'avais 3 changes, donc c'est vraiment pas beaucoup, quoi. Et du coup, voilà, mes maigres affaires étaient étendues sur l'étendage. Je reviens. Bah, en fait, c'est un peu de ma faute parce que je les ai laissées quand même une nuit. Je suis revenue le lendemain chercher mes affaires. Et ben, mes affaires de randonnée avaient disparu. Donc j'étais vraiment dégoûtée parce que c'est du matériel qui coûte un peu cher. Puis surtout, c'était vraiment des vêtements que j'ai portés tous les jours, quoi. Enfin, tu vois, c'était comme si on voler une petite partie de moi, tu vois. Ouais. Je me suis sentie un petit peu, ouais, c'est une part de ton intimité, tu vois, quand on te vole tes vêtements, quoi. Les vêtements, c'est quand même intime. Donc j'étais dégoûtée, mais bon, c'était les derniers jours, donc j'ai très vite relativisé parce que voilà, c'était fini. Et en fait, j'ai vraiment broyé du noir pendant une heure. Je suis allée me plaindre à la réception et tout, j'étais vraiment pas contente. Et puis j'ai fini par sortir, en fait, de l'auberge et d'aller me balader, quoi. C'était une très très belle journée, il y avait un énorme soleil, c'était magnifique. Et en fait, bah, j'ai décidé juste de regarder ce qu'il y avait autour de moi, quoi. C'était un cadre super joli. J'étais au bord de la rivière de Christchurch, il y avait plein de gens qui déjeunaient dehors, des gens qui faisaient du canoë sur la rivière et tout ça. Puis je me suis dit que c'était quand même pas bien grave, quoi. C'est vraiment pas la mort. En plus, voilà, c'est la fin de mon voyage. Il fallait bien qu'il m'arrive un truc mauvais pendant 3 mois, quand même. Donc voilà, c'était ça. Et bon, je me dis que voilà, ça servira peut-être à quelqu'un. Peut-être que la personne qui me les a volés en avait vraiment besoin, ou je sais pas. Mais bon, je suis très vite passée à autre chose parce que c'est bête ce que je veux dire, mais c'est que du matériel. Mais c'est la seule chose négative qui me soit arrivée, vraiment très sincèrement. Et du coup, chaque jour, je me disais bon, bah, en fait, ça va. En fait, tu t'en sors bien. En fait, il t'arrive rien de mal. Voilà quoi, il n'y a plus de raison d'avoir peur. J'avais vraiment envie de me faire ce trip-là, de partir un peu à l'aventure et tout ça, un peu à la dure. Donc je suis vraiment très contente d'avoir pu le faire. Je suis super fière de moi, en fait, tout simplement. Mmh. Après, ce qui est compliqué pour moi, là, dans la mesure où je suis rentrée, c'est le partage de ce voyage. Partager un voyage avec les gens qu'on aime et qui n'étaient pas avec nous, c'est, en fait, je pense que c'est impossible. Et du coup, c'est très frustrant parce que, bah, déjà, les gens n'étaient pas là. Enfin, c'est très dur, quoi. Même si tu montes des photos, des vidéos, des trucs comme ça, c'est très, très compliqué. T'en meurs d'envie, mais en même temps, les personnes en face de toi, des fois, elles s'en foutent, tout simplement. Elles ont bien raison, tu vois. Enfin, c'est pas leur truc, quoi. Donc, ouais, c'est très compliqué. Et du coup, là, je suis un peu dans une étape où je suis un petit peu avec moi-même, tu vois, à me dire, bon, alors, qu'est-ce que t'es devenu, quoi? Qu'est-ce que ça a fait de toi? Donc, ouais, je suis un peu dans ces questions-là. Je pense que dans quelques mois, ça ira mieux. Quand j'aurai vraiment...
Ça sera décanté.
Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Décanté, c'est bien le mot, ouais. Voilà.
Et en plus, toi, t'es arrivée, t'es revenue au moment de Noël.
Ouais, donc ça a été très intense, en famille, tu vois. Ouais. Donc, j'ai pas eu vraiment de moment seul, en fait, pour vraiment revenir sur moi-même. J'ai été toujours entourée et tout ça. Voilà, dans une ambiance de fête et tout ça, donc j'ai pas pu revenir trop sur moi-même, quoi. Mais ça va se faire très vite, j'espère.
Mais pour autant, t'as pas encore décanté, mais t'as déjà prévu de repartir dans 3 semaines,
dans
c'est
deux
ça
semaines,
deux
ouais.
semaines.
Et... Oh là là.
Respire, t'inquiète. Et tu repars où, alors?
Alors, cette fois-ci, je repars en Australie, mais là, c'est dans un contexte totalement différent, parce que j'y vais pour travailler. Donc, ça, c'est la différence principale. Après, ça s'est fait comme ça très vite, parce que j'ai postulé à une offre d'emploi donc, pour un poste d'enseignante, de prof de FLE. Il y a des mois que j'ai postulé. Je ne pensais pas du tout que ça se ferait. J'ai passé l'entretien dans une auberge de jeunesse en Nouvelle-Zélande. C'était complètement chaotique. Vraiment, je ne pensais pas du tout qu'ils me prendraient. Il se trouve qu'ils m'ont prise et que j'ai accepté, parce que je n'avais pas d'autre plan. Enfin, voilà. Quand j'étais en Nouvelle-Zélande, j'avais pas que ça à faire de chercher un travail, en fait. Tu vois, vraiment, j'avais pas envie d'envoyer des CV et tout. Donc, j'ai eu cette opportunité-là, j'ai dit oui. Donc voilà, donc il se trouve que c'est dans 2 semaines. Donc c'est vrai que ça peut paraître. J'enchaîne un peu. Mais en même temps, j'en ai besoin parce que sinon, je pense que vraiment. C'est comme quand je suis revenue d'Argentine et que j'ai eu la source, tu vois. Ça a été le levier qui m'a permis de me relever et de passer à autre chose. Bah là, ça va être pareil, tu vois. Parce que je pense que si j'étais restée en France à déprimer sur mon retour et tout, sur le fait que c'était fini, ça aurait été compliqué. Là, voilà, j'ai de nouveau un projet, j'ai de nouveau des envies qui commencent à naître et tout ça. Donc ça me stimule et j'en ai besoin.
Et donc, tu restes combien de temps ?
Alors, j'ai un contrat pour 6 mois.
Okay.
Parce que je remplace une prof qui va avoir un bébé. Et alors, j'ai un contrat pour 6 mois, mais j'ai un visa pour 1 an. Donc, il se peut que je reste un peu plus si je m'y plais. Je ne suis pas sûre. Peut-être que je rentrerai au bout de 6 mois. Voilà, rien n'est décidé encore. Je n'ai pas pris de billet de retour. J'ai pris qu'un billet aller. Donc, voilà. Je ne suis pas dans la tête d'un homme, donc je ne peux pas savoir ce que pense un homme qui part en voyage tout seul. En tout cas, je pense que ce qui peut rendre les choses difficiles pour nous, les femmes qui voyageons seules, c'est le regard que portent sur nous les hommes, en fait, tout simplement. Je pense que nous, si on, je sais pas, une femme qui prend son sac à dos, qui part, bah voilà, tant qu'elle en a envie, qu'elle en a besoin et qu'elle a cette volonté-là, bah, y a rien qui va l'arrêter. Par contre, je pense que le regard que portent les hommes sur elle, qui la voient comme une petite chose fragile ou alors comme une nana qui porte des shorts un peu trop courts ou je sais pas, qui, tu vois, et bah, c'est ça qui va rendre le fait de voyager seule dangereux. Je crois que ce qui m'a le plus exposée, en fait, c'est le fait que je voyage en stop. Et ça, je vais pas te mentir, il y a peut-être 90% des personnes qui m'ont prise en stop, c'était des hommes. Et je pense que le fait que j'étais une femme et que je sois seule, c'est ce qui a amené ça, en fait, tu vois. Et alors, pour le coup, je crois qu'il y a 60 de personnes qui m'ont prise en stop. Et une fois, je me suis sentie mal à l'aise parce que c'était un vieux monsieur qui m'avait prise en stop. Il avait un énorme ventre. Et alors, il me regardait comme ça. Il respirait très fort, tu vois. Et il avait un regard un peu lubrique en me regardant. Et c'est vrai que je me suis sentie mal à l'aise. Mais après, il ne s'est rien passé. Le gars, il n'a rien fait. Et moi, j'ai mis un terme à ça en lui disant, écoute, dépose-moi là, c'est bon, je vais descendre ici. Donc, j'ai mis un terme à la situation. Alors qu'il ne s'était rien passé, c'est moi qui ai senti que je n'étais pas à l'aise. Mais si tu veux, je ne me suis pas fait agresser, en fait. Et c'est le seul cas. Mais il est vrai qu'à de très nombreuses reprises, on m'a prise en stop et on m'a reproché. Enfin, on ne m'a pas reproché, mais on m'a dit, mais tu devrais faire gaffe, quoi. Mais t'as pas peur, ça peut être dangereux et tout. Peut-être qu'il y a une part de naïveté, je vais pas le cacher. Peut-être que j'ai tendance à me croire dans un monde de bisounours. Mais je me suis pas sentie en insécurité jamais. Donc chacun a ses peurs et ses craintes. Et moi, je juge personne. Hein. S'il y a des filles qui ont peur de voyager seules, je vais pas leur dire qu'elles ont tort. Tu vois, elles ont peur, c'est comme ça. Et peut-être qu'une expérience positive pourra les amener à changer d'avis. Moi, je fais la maline parce qu'encore une fois, j'ai eu que des expériences positives. Tu sais, on m'a pas violée, on m'a pas enlevée. Donc, c'est sûr que j'ai la confiance. Si un jour, il m'arrive un truc, peut-être que je changerai totalement de discours et que je voudrais rester chez moi. Je trouve que suivre son instinct, c'est la chose la plus importante. Mais dans n'importe quelle situation, en fait, même dans les situations de la vie quotidienne, dès qu'il y a ne serait-ce qu'un tout petit soupçon d'inconfort ou de... Tu vois, quand tu dis « je le sens pas », mais alors là, mais n'y va pas, quoi. Moi, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai développé, c'est vraiment écouter mon intuition. Pour l'instant, elle m'a pas trop trompée. Je pense que des fois, on peut se tromper aussi, malheureusement. Mais en tout cas, ouais, je pense qu'il faut s'écouter et se dire que... Voilà, on a peur, on n'y va pas, quoi. Ou on le sent pas, on n'y va pas. Alors ça, je crois que c'est la partie la plus compliquée, en fait. C'est de pouvoir gérer les personnes qu'on aime, les relations avec les personnes qu'on aime, et sa propre envie de faire des choses pour soi. Je pense que c'est pas forcément inhérent au voyage, c'est pour tout ce qu'on a envie de faire. Des choses qu'on a envie de faire pour soi, bah forcément, ça implique qu'on mette de côté des personnes qui sont pas concernées, quoi. Alors, pour ce qui est de ma famille, comme je te l'ai dit tout à l'heure, dans la mesure où ils acceptent mes choix de vie, ça se passe plutôt bien, même si, bien sûr, il me manque énormément quand je suis loin et que j'aimerais être avec eux. Tu vois, il suffit qu'ils me disent qu'ils sont en train de faire des courses, je sais pas où, j'ai envie d'y être, tu vois. Il m'arrive de me sentir isolée, en fait, tu vois. Mais ça rend les retours encore plus agréables, en fait, parce que je suis tellement contente de rentrer, de les retrouver. Eux aussi, ils sont tellement contents que je rentre, qu'on est euphorique et tout ça. Et j'adore partir pour revenir, en fait, vraiment. Le fait que je parte, ça adoucit des rapports avec certains membres, notamment avec ma mère, dont j'ai jamais été très proche, tu vois. On commence à se dire des choses assez fortes depuis que je suis partie, tu vois. Je pense que le fait qu'on soit loin, on se rend compte qu'on s'aime, et du coup, on se le dit, alors qu'avant, ça n'arrivait pas. Je dirais que mes amis d'enfance, mes amis du collège, lycée, on n'a pas du tout la même vie. Donc, c'est eux, enfin, comment dire, on n'a pas les mêmes envies et les mêmes priorités. Ils sont plutôt en mode, s'installer, tu vois, acheter une maison. Ils sont pour la majorité, ils sont en couple, tu vois. Ils ont des projets de vie que moi, j'ai pas, en fait, pour l'instant, du moins. On verra. Mais ensuite, j'ai un autre groupe d'amis, tu vois, mes amis de la fac, qui ont fait beaucoup de séjours à l'étranger. Mais alors, avec eux, c'est génial, quoi, parce qu'eux aussi, ils sont encore en train de voyager, on s'envoie plein de trucs, on échange sur plein de choses, on est toujours en train de se demander quelle va être la prochaine destination et tout ça. Donc, c'est pas du tout les mêmes échanges. Mais je dirais que quand on fait le choix de partir, on peut pas espérer tout avoir, quoi. C'est moi qui décide de partir, donc il faut que j'accepte que des choses se passent alors que je suis pas là, que les gens avancent aussi sans moi, hein, bien sûr, et que je rate des choses, quoi. Je peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre, quoi. Donc voilà. Mais je pense aussi que ça se cultive, même à distance, ça se cultive, les liens se cultivent. Voilà. Autant des fois, je revendique ce mode de vie en me disant, mais de toute façon, moi, j'ai 26 ans. Enfin, tu vois, j'ai encore le temps. J'ai envie de faire plein de trucs avant de m'installer. Tu vois, vraiment, j'ai trop envie parce qu'après, ça sera trop tard. Autant des fois, je me dis, oh là là, mais peut-être que je devrais, peut-être que c'est eux qui ont raison. Tu vois, peut-être que je devrais me poser, construire des choses, parce que là, j'ai l'impression que je me construis moi-même, mais que je construis rien. Tu vois, j'ai pas de carrière. Enfin, j'enchaîne des contrats. J'ai jamais signé de CDI. Tu vois, j'ai pas de maison. J'aimerais trop avoir un chien. Bah, j'en ai pas. Tu vois, donc. Ouais, c'est j'assume, pas dans tous les cas, pas avec n'importe qui et pas tout le temps. Quoi. On peut rester en contact. Ouais. Quoi.
Et est-ce que tu as dû faire face à, je sais pas, des coups de cœur amoureux ou amicaux que tu as fait à l'étranger, ouais, et auxquels tu as dû mettre un terme en partant?
Oui. Oh là là.
Tu m'as sucé pour te faire pleurer. Coupes, hein.
Non, j'ai pas pleuré. Je pense que moi, dans mon cas, pour l'instant, mes expériences, elles sont toujours faites alors que je savais que j'allais revenir, quoi. Je me suis jamais dit, je pars pour toute la vie. Donc, je sais que tout ce que je vais vivre, ça va être éphémère, en fait. J'ai envie de voyager, mais je veux pas habiter à l'étranger. Et du coup, toutes mes relations, qu'elles soient amicales ou amoureuses, elles sont aussi basées sur ça. On le sait tous les deux, parce que je te le dis, je vais pas rester. Mais du coup, je pense que c'est ce qui rend les choses aussi hyper intenses, quoi. Parce qu'on sait que le temps est compté, on sait qu'on n'a pas le temps de se prendre la tête, on n'a pas le temps de se trouver des défauts, parce que de toute façon, ça ne va pas durer. Donc, on essaye de faire que tous les moments soient chouettes, quoi. Et ça peut causer des frustrations. Moi, je suis revenue parfois en me disant, mais quand même, t'aurais pu rester, ou lui, il aurait pu venir. Mais ça ne s'est pas fait. Donc, après, moi, je ne suis pas quelqu'un qui force le destin, tu vois. Si ça ne se fait pas, c'est que ça ne devait pas se faire. Et peut-être que ça sera plus tard avec quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, je ne m'empêche pas de vivre des expériences à l'étranger sous prétexte que je ne vais pas rester. Au contraire, je les vis et je les vis à 100 à l'heure parce que ça ne va pas durer. J'aime pas dire ça, mais dans la société dans laquelle on vit, ou à mon âge, on attend de moi que j'ai quand même un contrat assis, que je commence à peut-être à économiser de l'argent, à en faire quelque chose, à avoir des enfants, tu vois. Parfois, on pose sur moi un regard qui n'est pas ce que je suis, tu vois, qui me demande d'être quelque chose que je ne suis pas. Donc moi, je suis d'accord avec toi que que ce que je fais, c'est pas en vain, tu vois, j'en suis convaincue. Mais disons que parfois, je me dis, faudra que ça s'arrête un jour, tu vois. Parce que je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais tu vois, c'est... Dans d'autres pays, ça se passe pas comme ça. Dans d'autres pays, on n'attend pas des femmes qui, à 30 ans, elles aient leur vie installée, tu vois. C'est pas le cas partout. Dans d'autres pays, les femmes, elles ont besoin de s'accomplir avant de faire ça, tu vois. Et du coup, très souvent, quand t'es étrangère dans un autre pays, t'es valorisée pour être ailleurs, pour faire d'autres choses, pour tenter de nouvelles expériences. C'est souvent le regard de nos pères, en fait, sur nous, de nos semblables, sur nous-mêmes, qui peut être nous faire nous sentir mal, quoi. Mais bon, voilà, c'est pas très grave. Hein.
Merci à toi Margot pour ce joli moment. J'espère que ta vie australienne se déroule bien. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. En attendant, vous pouvez me retrouver sur www.cafésimone.fr, sur Instagram, Twitter ou Facebook. À très vite!